le chêne et le roseau. L'arbre prétentieux est sûr de sa force et se moque du frêle roseau. La nature envers nous me semble bien injuste. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Le roseau explique qu'il plie mais ne rompt jamais, ce qui ne semble pas convaincre le chêne. Puis vient la tempête violente, terrible et destructrice. Elle vient aussi comme un jugement, et l'arbre royal est déraciné, tandis que le roseau a résisté. Les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles, violentes. Les vents sont forts et la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi. Les autorités, la police, les collègues, la famille, les voisins, etc. exercent des pressions quotidiennes et parfois violentes. Porte ouverte distingue ces pressions en deux catégories différentes. L'oppression violente, persécution marteau, assassinat, kidnapping, mariage forcé, destruction de biens, etc. Et la pression par discrimination, persécution d'étau, oppression, rejet, déni de droit, exclusion, procès injuste, etc. Et je vous invite maintenant à lire en 2 Corinthiens tout le chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribué à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, Paul nous parle de ces pressions que subissaient également les premiers chrétiens. Il faut des personnes qui nous disent oh, le temps change, les persécutions arrivent. Je dis, oui, mais les persécutions d'aujourd'hui sont moins agressives que celles des premiers disciples qui, eux, subissaient vraiment de fortes persécutions. Et Paul nous en parle. Il est sans doute l'un des mieux placés, Paul, pour en parler. Lui qui était l'un des premiers persécuteurs des chrétiens, il a dû subir à son tour la persécution jusqu'à la mort. Voyons ce qui a permis à Paul, hier, et aux chrétiens persécutés d'aujourd'hui, de tenir bon malgré toutes les pressions exercées contre eux. Et découvrons comment ces enseignements peuvent impacter nos propres vies. Pourquoi sommes-nous persécutés de toutes parts? C'est une bonne question. Parce que nous détenons un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire du Christ est un trésor, bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me laisse dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Philippiens 3, verset 8. Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. En sommes-nous autant convaincus que Paul? Selon la définition du dictionnaire, un trésor est un ensemble de choses de valeur accumulées et souvent soigneusement cachées. Eh bien, c'est tout l'inverse de ce que Dieu veut que nous fassions du trésor qu'il a déposé dans chacun de nos cœurs. Mais nous avons un problème. En règle générale, un trésor attise la convoitise, la curiosité, l'envie de voir, etc. Mais nous le savons tous, ce trésor-là n'attire pas systématiquement les foules. Ils peuvent l'attirer, mais pas systématiquement. On peut même dire que dans certains pays, comme dans la plupart des pays persécutés, il attire la haine. Nous allons regarder une vidéo qui est difficile. Certaines personnes me disent, mais pourquoi voir ces vidéos? Il faudrait les enlever. Et ces vidéos nous rappellent à quel point être chrétien, c'est difficile, mais surtout, ils nous rappellent que dans l'épreuve, Christ est là et nous porte. Et ce qui est impossible pour nous devient possible grâce à Jésus-Christ.
Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement. Parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé, veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ? Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. Ce père a répondu, c'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit, croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. Et j'ai dit à ma femme, si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants. J'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé, « Pourquoi jeûnes-tu ? Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu, « Je jeûne pour mes enfants et mon église. »
J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en une semaine, j'étais guérie. Des naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur. Et nous avons dit aux naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants. » Mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître. Et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou. Et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari. » Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qui voulait exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite. » La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins. Et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir.
Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimée par Dieu.
Très dur. Dieu est là, même dans la pire catastrophe. Voir son conjoint se faire tuer lentement devant soi. Comment on peut réagir humainement très mal, comment on peut réagir avec Dieu dans notre cœur, avec Jésus-Christ qui nous soutient, qui va moins mal, il nous porte. Même ici en France, l'évangile dérange. Il gêne les incrédules et par-dessus tout le diable. Il déteste ce trésor car il sait combien il est précieux pour nous ouvrir les yeux. Il fera tout pour empêcher les hommes de découvrir ou de garder ce trésor. C'est une lutte qui ne prendra fin qu'au retour de Jésus. Au verset 4, Paul parle des incrédules d'une manière terrible. Il dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Le diable se sert des incrédulités de l'homme, pour lui fermer la porte de la connaissance. Alors que devons-nous faire ? Nous taire et cacher notre trésor ? Au verset 13, Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. C'est un principe général. On ne peut donner aux autres ce que l'on a reçu soi-même. S'il y a de la lumière dans nos cœurs, il y en aura sûrement autour de nous. Parfois, nous pourrons avoir peur et être tentés d'enterrer le trésor de l'Évangile. Mais rappelons-nous, toujours, que Jésus nous a donné cette mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. « Vous êtes la lumière du monde, » dit le Seigneur. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père céleste. Ça marche. Ah, on a oublié la question, c'était... Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts ? Et l'autre réponse, du coup, parce que nous sommes fragiles. À l'ère des super-héros, bon nombre de chrétiens aimeraient tant avoir des super-pouvoirs, leur permettant de se défendre facilement. D'ailleurs, une certaine théologie propose cet évangile facile et confortable. Mais la vérité est tout autre. Au verset 7, nous lisons « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attirée à Dieu et non pas à nous. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. » Un contraste apparaît entre le trésor et le vase de terre qui le contient. L'homme, créature de Dieu, mais formé de la terre, poussière du sol, est comparé à un vase. Le vase est fragile. L'homme extérieur dépérit. La tente est destructible. Le messager est de peu de valeur. Mais il est porteur d'un message d'une grande valeur. Remarquons que Dieu n'a pas choisi des anges qui auraient semblé plus puissants et plus aptes que les hommes dans sa sagesse. Dieu prend les hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage à la grâce dont ils sont les objets. Voici un autre témoignage percutant du pasteur Madira Kotir. C'est ça, Daniel ? Prononce à la franc-comtoise. Donc, Madira Kotiredi était gravement malade et condamné à mourir quand Dieu l'a miraculeusement guéri et lui a annoncé qu'il allait lui confier une mission. Il savait à peine lire et n'avait jamais étudié la théologie. Mais un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette aménagée avec des haut-parleurs et une Bible audio amplifiée qu'il a remise à Kotiredi. Il est devenu l'évangéliste à la bicyclette. Il allumait sa Bible amplifiée, il diffusait un chant, puis un verset biblique, et circulait dans les villages en annonçant l'évangile. Il a fait cela pendant 7 ans, jusqu'au jour où on l'a arrêté, en lui disant qu'il ne devait plus revenir. Et une nuit, alors qu'il dormait, quelqu'un est venu avec une hache pour le tuer. Il a reçu plusieurs coups de hache. Il s'est retrouvé à l'hôpital, presque mort. Le lendemain, un de nos partenaires est allé lui rendre visite. Il a demandé à l'épouse de Kotiredi, « Est-ce que tu as peur de perdre ton mari ?» Elle lui a répondu, « Pour moi, il devrait être mort depuis 7 ans déjà. Celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. » Aujourd'hui, Kotiredi a repris ses tournées à vélo avec encore plus d'énergie. Kirti et Kotiredi sont tous deux des vases de terre fragiles, sans valeur aux yeux du monde, mais très précieux pour Dieu. Parfois, nous aussi, nous pouvons penser que nous n'avons aucune valeur aux yeux de nos voisins, notre famille ou nos collègues. Mais Dieu nous choisit pour répandre sa lumière. Et c'est à dessein qu'il place sa gloire dans des vases sans gloire. Ainsi, la puissance incomparable que produit l'Évangile est celle de Dieu et non la nôtre. Plus la faiblesse du témoin est manifeste, plus la puissance de Dieu est éclatante. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Est-il nécessaire de rappeler que tout vase dépend du potier qui le tire entre ses mains ? Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution et l'abattement. Pourtant, Il n'y avait pas de désespoir en lui, malgré ce qu'il exprime plus haut, car son soutien est divin. Dans le texte que nous avons lu, il met en parallèle d'une manière saisissante les épreuves et souffrances endurées dans son corps, sa chair mortelle, le vase, et les ressources divines qui permettent de les supporter et d'en être victorieux. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Ça me percute, ces mots. Un chrétien peut être inquiet. Un chrétien peut être abattu. Un chrétien peut être pressé de toutes parts, mais il ne sera pas écrasé, il ne sera pas désespéré, il ne sera pas abandonné, il ne sera pas anéanti. Même si, quand nous annonçons l'Évangile, c'est parfois difficile, ce n'est pas impossible. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, mais avec notre projet d'évangélisation, oui, il y aura peut-être des moments où nous serons inquiets, il y aura peut-être des moments où on sera un peu désespéré, mais le Seigneur agira. Il faut faire ce pas, même si les choses nous paraissent impossibles, même si les choses nous paraissent dures, même si on a peur du regard que les autres auront sur nous. Dieu sera là au rendez-vous. Nous pouvons être pressés de toutes parts, en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous. Mais nous ne serons pas écrasés, car Jésus-Christ a pris à la croix ce qui pouvait vraiment nous anéantir et nous écraser, le péché. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus a été écrasé, brisé par le poids de nos péchés, et ce, à notre place. Il est vrai que les épreuves sont parfois très dures. Kiriti a perdu son mari. Kotiredi a été violemment battu à coups de hache. Tous deux ont failli mourir et risquent encore leur vie aujourd'hui même. D'ailleurs, Paul en parle régulièrement dans ses lettres. Il dit qu'il côtoie la mort en permanence. Il parle d'arrêt de mort. Chaque jour, je risque la mort. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Romains 8, verset 36. Mais c'est par une telle abnégation que Paul imitait Jésus. Ses facultés, son intelligence, sa mémoire, sa force de caractère, tout était mis à la disposition de son Seigneur Jésus-Christ. Quand on voyait Paul, il paraissait méprisable, misérable, faible, de sorte que toute l'attention était centrée sur le trésor qu'il contenait, le Christ. Si le vase avait eu la moindre valeur, la lumière divine aurait été atténuée. Mais si le vase est brisé, la lumière de la vie brillera. En Iran, les autorités religieuses font tout pour détruire la foi chrétienne. Mais cela s'est retourné contre elle. Ces pressions ont servi à consolider et à purifier l'Église. Ce que la persécution a fait, c'est détruire l'Église qui n'était pas composée de disciples, relève un dirigeant d'Église en Iran. Autrement dit, elle provoque un tri entre les disciples prêts à mourir pour le Seigneur et les convertis de surface qui renoncent face à l'épreuve à cause de la surveillance des agents du renseignement. Alors n'ayez pas peur si vous dites « Mais est-ce que moi, est-ce que je réussirai à mourir pour ma foi ?» Sachez que comme le Seigneur habite en vous, il vous donnera la force. Et c'est au moment venu qu'on le saura. On ne sait pas en avance. Hein. Moi, je ne peux pas dire « Est-ce que j'arriverai à garder la foi si je voyais Moïse étrangler devant moi ?» C'est impossible de prévoir en avance. Mais dans l'épreuve, le Christ est là et il nous porte. Et l'impossible devient possible. Ces gens persécutés vivent leur foi dans la clandestinité. Mais ils trouvent des parades pour que l'Église continue de grandir. Leur objectif n'est pas d'implanter des églises, mais de faire des disciples. Et ça, c'est extraordinaire. Je fais une aparté, mais hier, Jean-Luc était à la maison, le prêtre, et on disait que nous, l'évangélisation, le plus important n'était pas de remplir nos églises, mais de faire de nouveaux disciples. Ici, à Thiers, nos églises ne font pas de l'évangélisation pour faire grandir nos églises, et pour que des gens puissent connaître le trésor de Jésus-Christ. Et ça, c'est puissant. C'est pour ça qu'on peut travailler ensemble. Parce que nous ne travaillons pas pour notre clocher, mais nous travaillons pour Jésus-Christ. Merci à vous. Voici encore un autre témoignage. Ava et Marduk sont des chrétiens iraniens fervents. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, notamment suite à l'emprisonnement de Marduk. Ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens, et leurs revenus sont comptés. Ils sont sous surveillance. Mais malgré cette persécution, ils ont grandi. Ava raconte, « Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu, et j'en ai retenu de nombreuses leçons. J'ai appris que Dieu était là avec moi dans le feu. » Ava réalise qu'elle avait lu et relu la Bible, qu'elle l'avait même enseignée aux autres, mais que sa connaissance était en grande partie théorique. C'est grâce à la persécution qu'elle et son mari ont subie qu'elle connaît la réalité de Dieu et de ses promesses. Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher de lui. Depuis l'arrestation de son mari, Ava est devenue comme une enfant sans défense, mais dépendant de la puissance, de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. Je peux dire que je suis plus prête et disposée à faire la volonté de Dieu. Alors j'ai oublié la question.
Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés?
Ah, ah ben c'est bien. Alors pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. En tant que chrétiens, nous croyons que comme Christ est ressuscité le premier, nous aussi nous ressusciterons. Le verset 14 de notre passage nous montre l'issue glorieuse de notre chemin. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Il y a d'abord la foi, croire, puis le témoignage, parler. D'où la persécution du témoin jusqu'à la mort. Mais notre résurrection est aussi certaine que celle du Christ. Paul peut vouloir dire « J'ai cru aux ressources divines, c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quoi qu'il puisse m'en coûter. » C'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expérimentent chaque jour en témoignant courageusement de leur foi malgré les risques pour leur vie. Et puis il y a la gloire future, car nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce verset introduit un autre contraste entre le présent et l'avenir. Nos épreuves, malgré leur intensité, sont estimées légères et courtes au regard de la gloire future. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Voici ce que nous dit Paul en Romains 8, verset 18. Cette gloire est infinie en quantité, surabondante. Cette gloire est infinie en qualité, un poids insurpassable. Cette gloire est infinie en durée, elle est éternelle. Quel cœur que celui de Paul. Un cœur brisé, mais un cœur encouragé, dynamisé, comblé par sa vision de la gloire future. Ses yeux étaient littéralement fixés sur la récompense à venir. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Seule la foi, conviction des choses invisibles, nous fait apprécier ces valeurs incomparables. Par la foi, les yeux de notre cœur voient au-delà de notre vie terrestre et ils voient les choses glorieuses du ciel et se fixent sur le Seigneur de gloire. Et si nous manquons de foi, nous pouvons faire notre cette prière de Paul aux Éphésiens. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers moi qui crois. Nous arrivons à la conclusion. Nous ne perdons pas courage. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire du Christ. Il est contenu dans nos vies fragiles. Les épreuves peuvent réussir à fissurer notre vase. Mais c'est justement au travers de ces fissures que la lumière de la gloire du Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. C'est une belle image. Je vois ce vase avec cette fissure, cette lumière qui sort de cette fissure. Par nos épreuves, l'Évangile est aussi annoncé aux autres, à ceux qui nous persécutent. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés, mais Paul nous encourage à lever nos têtes pour fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir. Paul se considérait comme l'esclave de tous. Il se constituait esclave volontaire pour l'amour de Jésus. Mais s'il était livré à la mort, c'était encore pour l'amour de Jésus. Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et cette mission, elle est confiée à chacun d'entre nous. Annoncer cette bonne nouvelle aux Tiers-Mois, aux gens des Sarènes, aux gens de Saint-Rémy, aux gens, j'ai oublié où habitait Patrick, de Vesoul, et de toute cette région de Valence, de tout là où on est, annoncer cet évangile. Que l'exemple de Paul et celui de nos frères et sœurs persécutés nous incite à plus de disponibilité et à plus de consécration pour le service que le Seigneur veut nous confier. Et excusez-moi d'être un peu lourd, mais voilà, nous allons faire un projet d'évangélisation. La semaine prochaine, on va en parler ensemble, si je ne me trompe pas, ce sera journée sous croûte, reconnaissance. Et nous allons tous ensemble faire un projet d'évangélisation pour cette ville de Thiers. Soyons nombreux, oublions nos difficultés, oublions notre âge, concentrons-nous sur cette chose précieuse qui est en nous. Nous sommes des vases fragiles par notre âge. Moi, je suis très jeune, vous êtes plus âgés. Nous sommes fragiles. Mais par la puissance que Dieu a mis en nous, ce trésor va éclater sur cette ville de Thiers. C'est ce que je souhaite. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Je l'espère. Et nous le verrons tous ensemble dans les semaines à venir. Prions. Seigneur, merci pour ces témoignages poignants. Et surtout, merci parce que tu es là, au cœur de ces personnes persécutées. Merci, Seigneur, parce que l'impossible est possible en toi. Merci, Seigneur, parce que tu as aidé ces personnes persécutées. Tu as aidé cette femme qui a vu son mari être étranglé devant elle. Tu as aidé cette personne qui a été poignardée pendant la nuit. Et tu lui as enlevé la crainte d'annoncer ta parole, puisqu'il continue à annoncer ta parole. Merci Seigneur parce que tu veux faire la même chose en nous. Nous aussi, nous avons nos craintes. Elles ne sont pas aussi grandes que ces gens qui sont persécutés, mais nous en avons, Seigneur. Aide-nous à enlever ces craintes inutiles pour laisser place à ce trésor que tu as mis en nous. Et nous te prions pour un réveil dans cette ville de Thiers, Seigneur. Que par notre faiblesse, tu puisses faire croître cette ville dans ton cœur et qu'il voit. Amen.